Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
J'espère que vous avez passé un beau dimanche ensoleillé. À l'heure qu'il est, vous voilà de nouveau confinés chez vous. Alors finalement, quoi de mieux que d'allumer sa radio et de vous caler sur la fréquence d'Europe 1 pour nous rejoindre sur cette libre antenne. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Ça veut dire que vous avez 2 heures pour venir prendre la parole et me parler de vous, de votre vie, de vos soucis et pourquoi pas aussi de vos réussites, de vos expériences positives et être à votre tour source d'inspiration pour les autres. Pour nous rejoindre ce soir, le plus simple, c'est encore le téléphone. Vous composez le 3921 et vous arriverez au standard d'Europe 1, où Estelle et Maxime vous guideront jusqu'à moi. Si vous avez envie de participer à ce qui se passe à l'antenne, de donner votre avis, d'apporter du soutien par SMS, vous faites le 73921, suivi du mot nuit et de votre message. Enfin, les mails sont pratiques aussi si vous voulez entrer en contact avec nous à tout moment. Notez bien l'adresse libreantenne, en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Et c'est Benoît qui est aux manettes ce soir et qui nous donne le top départ de cette libre antenne.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et je commence par ma question du jour pour mieux vous connaître. Comment allez-vous vous adapter à ce nouveau couvre-feu ? Si vous avez des suggestions, des idées, eh bien c'est le moment de les partager. Vous pouvez me répondre tout au long de l'émission par mail ou par SMS. Comment allez-vous vous adapter à ce nouveau couvre-feu ?
Laissez votre message à Sabine Marin au 739-21, 75 centimes, plus coût du SMS.
Et celle qui ouvre l'antenne ce soir, c'est Marie. Bonsoir à vous, Marie.
Oui, bonsoir Sabine, je vous remercie infiniment de m'accueillir. Voilà.
Avec plaisir, soyez la bienvenue.
Merci beaucoup. Je vous explique un petit peu la raison de mon appel.
Oui, dites-moi.
Voilà. Donc, je vous téléphone parce que je suis inquiète ce soir. Je suis démunie par rapport à une situation familiale et je me sens à la fois impuissante et je suis inquiète. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Donc, il se trouve que je suis en couple, donc, et nous avons 3 enfants et notre fille cadette est venue nous voir ce samedi, donc hier après-midi. Et suite à sa visite, donc, je suis assez désemparée. Et pour vous expliquer, elle est venue nous voir et mon mari s'est fâché à tel point qu'il l'a même, il a pété un câble un peu et il l'a foutu à la porte. Donc, pour en arriver là, je voudrais revenir un petit peu en arrière.
Oui, j'allais vous dire, déroulez la pelote qu'on essaie de comprendre un peu, oui.
Voilà, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc, depuis notre fille a 34 ans, elle a un petit garçon de 4 ans et demi. Et depuis 4 ans et demi, donc, nous habitons à 100 km à peu près de chez notre fille. Nous sommes allés régulièrement à sa demande, l'aider à garder son petit garçon, à s'en occuper, ce qu'on a fait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention, une fois, deux fois, voire de temps en temps, même 3 fois par semaine. Nous avons 5 petits-enfants, donc nous sommes également attentifs à nos autres petits-enfants, ce qui fait que depuis plusieurs années, nous faisions à peu près en moyenne, c'est beaucoup ce que je vais vous dire, mais entre 600 et 800 km par semaine pour s'occuper de nos petits-enfants.
Ah oui, c'est un travail à temps plein pratiquement.
Exactement, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on n'avait plus suffisamment de temps pour nous, et ça c'est à la limite, c'était pas le pire, c'est qu'avant le confinement avec mon mari, nous nous sommes aperçus que nous étions fatigués et que nous n'allions pas à la rentrée, c'est-à-dire depuis le mois de septembre, nous allions dire à nos enfants que nous allions changer de rythme et que nous ne pouvions pas poursuivre cette vie-là, que c'était, que ça nous demandait trop.
Il est temps de penser
donc,
à vous aussi.
Donc le confinement est arrivé, et alors que nous étions très fatigués, et l'effet bénéfique du confinement pour nous, c'est que ça nous a permis de nous reposer, de nous poser et de nous reposer. Ouais. Et après le confinement, nous avons pu expliquer à nos enfants que nous étions fatigués, que nous envisagions à la rentrée un changement de rythme, et que nous nous occuperions de nos petits-enfants pendant les vacances scolaires et que ce serait eux qui nous amèneraient les petits à la maison, voilà. Donc, de nos trois, sur nos trois enfants, les deux aînés ont très bien compris et nous ont encouragés. Ils nous ont dit qu'ils comprenaient très bien que nous avions raison. Mais notre fille cadette, elle, c'est pas du tout dans son, je dirais, ça lui a pas du tout plu. Et elle, dans un premier temps même, elle s'est fâchée. Elle nous a boudé. On a tenu bon de toute façon. Et les vacances de la Toussaint ont commencé depuis vendredi soir. Et donc, la semaine dernière, nous avons mis un petit planning avec nos enfants par rapport à nos petits-enfants. Et avec notre fille, nous a demandé d'aller garder à nouveau son petit garçon chez elle. Et que si on voulait dormir, c'était possible, voilà. Mais mon mari ne souhaite pas du tout aller chez elle parce qu'on y est allé donc depuis 4 ans et demi. Et on assiste à des choses, c'est-à-dire qu'elle surprotège son petit garçon et on a beau essayer de converser avec elle, de lui dire un petit peu notre inquiétude sur le fait qu'il faudrait qu'elle prenne un petit peu de... Voilà, qu'elle l'aide à grandir parce qu'on sent qu'elle le surprotège. Vous voyez, il y a des rituels du soir, il ne faut pas en déroger. Quand elle vient ici, s'il dort ici, il faut mettre un rideau supplémentaire parce que ce n'est pas suffisamment noir dans la chambre. Enfin, c'est tout un tas de détails qui nous stupéfient parce qu'on trouve que c'est excessif.
Ça manque de souplesse à votre goût, tout ça ?
Pardon ?
Ça manque de souplesse à votre goût, tout ça ?
Ça manque de souplesse et elle est vraiment obsédée par le fait d'être une bonne maman et elle est...
Marie, je vous perds là, je ne sais pas si vous bougez.
Oui, vous m'entendez ?
Je vous perdais là, vous êtes éloignée du combiné, non ?
Voilà, et là vous m'entendez mieux, Sabine ?
Ah oui, merci beaucoup, c'est bien plus agréable.
Voilà, donc je disais que c'est une maman qui surinvestit son enfant et qui fait couple avec lui d'une certaine façon, même si elle a un très gentil compagnon qui essaye d'occuper la place qu'elle veut bien lui laisser. Voilà. Et donc, quand elle nous a demandé d'aller chez elle et de garder son petit garçon, moi, j'aurais fait l'effort, mais mon mari ne peut plus. Il est excédé par son comportement. Il a beau essayer de l'encourager quand même à prendre une certaine distance et à prendre conscience de certaines choses. Nous lui avons proposé de garder son petit garçon, donc un jour... Chaque jour, il y a 2 semaines de vacances, donc un jour, et qu'il pourrait dormir une nuit ici, et éventuellement, on aurait prolongé d'un deuxième jour. Voilà. Mais ça ne lui a pas convenu, et elle est venue nous voir, donc samedi, elle est restée 3 heures avec nous, 3 heures à nous faire énormément de reproches, que tout ce qu'on fait dans la vie, que rien ne va, que. Voilà. Très critique. Voilà, tout en nous disant que quand on s'occupe de son petit garçon, on est super. Ça, elle n'a rien à redire là-dessus. Et d'ailleurs, bon, je confirme parce que franchement, on fait vraiment du mieux qu'on peut avec beaucoup d'amour et vraiment avec beaucoup de présence et d'attention. Mais elle est extrêmement critique et elle a un frère avec qui elle s'est fâchée, qui a 3 petits garçons. Elle s'est fâchée parce qu'elle trouve qu'ils élèvent mal leurs enfants alors que voilà, ils sont des parents présents qui sont différents. Elle est très investie dans l'éducation positive et l'éducation un petit peu plus classique, elle ne la supporte pas. Et sa sœur aînée donc, nous disait dernièrement que quand elle vient chez elle, il est arrivé qu'elle dorme, que notre fille aînée nous dit « je ne me sens plus chez moi » parce qu'elle investit les lieux et que tout est au service de son petit garçon.
Ouais. Mais elle se comporte un peu comme une enfant gâtée, j'ai l'impression, non ?
Oui, Sabine. C'est moi d'abord. Il s'est fâché l'autre jour. Ouais. Donc, hier, il s'est fâché. Et à un moment, il lui a dit, écoute, si c'est pour être mal et venir nous dire tout ce que tu nous dis de désagréable, écoute, tu prends la porte. Elle a dit, moi, personne ne me met à la porte. Mon mari a dit, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais faire un tour. Il est parti. Et elle a, au bout d'un moment, on a fini un peu notre... voilà, et elle est partie après. Voilà. Donc, moi, mon inquiétude, vous voyez, Sabine, c'est qu'il y a 4 ans, avec notre fils, il y a eu des problèmes un petit peu, disons, des problèmes de relation entre notre fils et nous, et notre petite belle-fille et nous. Et à l'époque, ils avaient 2 petits garçons. Et mon mari s'était fâché aussi, parce que là aussi, c'était des enfants gâtés, et qu'ils nous reprochaient, en gros, d'être trop gentils avec leurs enfants, qu'il fallait qu'on soit plus sévère. Bon. Et finalement, mon mari s'est fâché, il leur a dit, écoutez, puisque c'est comme ça, on n'est pas obligé de garder vos enfants, voilà. Et on ne les a pas vus pendant longtemps. Et moi, peu de temps après, on a découvert que j'avais un cancer du sein. Je pense que ce choc de ne plus avoir vu notre fils et nos petits-enfants a été très, très bouleversant pour moi. Et j'ai été soignée il y a 4 ans et demi d'un cancer du sein. Et donc, moi, quand hier, notre fille est partie, en me réveillant ce matin, ma peur, si vous voulez, c'est d'être à nouveau dans un choc émotionnel et à nouveau de faire une rechute. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler, parce que je ne suis pas bien aujourd'hui.
Déjà, il faut que ça sorte. Mais si vous avez conscience de l'effet des chocs émotionnels sur votre corps, il faut effectivement immédiatement aller en parler. Hein. Ça me paraît une priorité.
Oui.
Donc, m'appeler ce soir, c'est bien, mais ce n'est pas une solution pérenne. C'est juste une solution, là tout de suite, c'est mieux que rien. Mais je pense, est-ce que vous avez un thérapeute qui vous suit depuis ce cancer ?
Voilà, je vous ai téléphoné ce matin pour vous avoir ce soir à l'antenne, et j'ai également envoyé un petit message à un thérapeute avec qui je suis en contact depuis un certain temps.
Ça me paraît important, la première chose à faire c'est ça effectivement, si vous avez bien compris que les chocs émotionnels font baisser les défenses immunitaires de notre corps. Et c'est le meilleur moyen d'attraper beaucoup de choses ou de se laisser aller à des maladies quand on a du mal à se battre. Ça, c'est déjà important de l'avoir compris. Maintenant, j'essaie de comprendre le fonctionnement de cette fille-là. Quel est l'écart d'âge entre vos trois enfants, Marie ?
Il y a très peu d'écart entre nos trois enfants. Il y a 16 mois entre notre fille cadette et notre fils, donc qui est au milieu, puisque nous avons trois enfants. Et il y a 36 mois entre elle et sa sœur aînée.
Donc c'est même pas une question de génération, il n'y a pas de gros écarts, de grosses différences d'époque ou d'éducation. Quand les trois étaient petits, est-ce qu'il y avait une bonne entente à la maison entre tout le monde ?
Est-ce qu'il y avait
une bonne entente ?
Ah oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu un gros problème de dépression au moment de la naissance de notre fille cadette, que j'ai bien soignée, que j'ai bien équilibrée, mais il y a eu une période compliquée. Et nos enfants connaissent notre histoire avec mon mari. Nous avons fait de la thérapie. Ils connaissent notre histoire, nos souffrances. Et j'étais surprise parce qu'elle-même a fait, quand elle a été plus jeune, elle a fait de la thérapie aussi. Moi, je pensais qu'elle était sortie d'affaires, qu'on était tous sortis d'affaires. Et à la naissance de ce petit garçon, qui est merveilleux, hein, entre autres, au passage, mais ça, chez elle, il s'est passé quelque chose qui nous dépasse. Et je me sens impuissante à l'aider. Et maintenant, je me sens aussi un peu en danger. Donc, ça va crescendo.
Oui, je comprends. Vous avez l'air d'avoir réfléchi à beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite piste qui se dessine sur ce qui peut se passer dans sa tête à elle ? Qu'est-ce qui a pu se réveiller à la naissance de cet enfant-là ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au moment de sa naissance, moi, j'ai fait une dépression. Quand j'étais enceinte de notre fille cadette, j'ai fait une dépression et je n'étais pas sortie de cet état dépressif au moment où elle est née.
Oui.
Donc je pense qu'elle s'est sentie abandonnée, enfin qu'il y a eu quelque chose. Je n'étais pas une maman, et puis j'étais une maman fatiguée parce que j'avais un petit garçon qui avait à peine 2 ans et une petite fille de 3 ans quand elle est née.
Bien sûr.
J'ai été débordée.
C'est possible parce que j'ai comme l'impression là que c'est comme si elle vous demandait de faire vos preuves à chaque fois encore et encore. Comme si elle avait besoin de vous prouver des choses.
Elle est toujours insatisfaite.
Oui, c'est là que ça prouve qu'il y a un problème et que c'est quelque chose de plus profond qu'elle demande. C'est là qu'il y a une souffrance quelque part qu'elle a pas réparée, je crois que vous l'avez compris. Et cette façon d'exiger d'être toujours au centre de l'intérêt, qu'on fasse comme elle veut, que vous soyez disponible quand elle veut, tout ça, ça décèle quelque chose de probablement plus profond dans sa demande, dans ce qu'elle recherche.
Oui.
Quoi, maintenant, j'en sais rien, je la connais pas, mais ce qui est impératif, c'est de vous protéger, vous.
Oui.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, parce que je comprends que vous êtes une maman et une grand-maman extrêmement investie. Mais j'ai quand même l'impression que vous vous en mettez beaucoup sur les épaules. Alors, vous avez déjà fait un pas en arrière, et ça, je trouve ça très bien. Vous avez compris qu'à un moment donné, vous n'alliez pas passer votre retraite à travailler à temps plein pour les enfants de vos enfants. Mais là, c'est en train de déraper à nouveau. C'est-à-dire que malgré cette bonne résolution qui a été de leur dire « Stop, on existe, on a le droit de vivre à notre rythme, on est fatigué », vous replongez quand même dans la souffrance et dans l'inquiétude à cause d'elle.
Oui.
Et c'est là qu'il va falloir prendre un peu de distance, je pense, pendant un petit moment. Alors, je comprends aussi ce qui vous fait peur, c'est cette l'épée de Damoclès de ne plus voir les petits, les enfants.
Ce petit garçon, alors elle m'a écrit, elle est rentrée chez elle, elle m'a envoyé un SMS hier, est-ce que papa est bien rentré, est-ce que ça va? Alors je lui ai parlé de son père, je lui ai dit, parce que mon mari est en train de suivre encore une thérapie.
Justement. Attention, je vous repère, Marie.
Pardon?
Allô? Je vous repère, Marie, je crois que vous bougez un peu avec le téléphone.
Ah, alors j'essaye de ne plus bouger le téléphone, est-ce que ça va mieux, Sabine?
Merci beaucoup, oui.
Voilà. Donc je disais que mon mari est lui aussi actuellement en thérapie. Il suit une thérapie avec c'est EMDR, je crois, l'expression.
Tout à fait.
Voilà, du MDR. Et donc, pour justement, sur le plan émotionnel, aller encore mieux, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais, ton père, en ce moment, est en plein travail. Il a des fragilités. Donc, voilà, il essaye de te dire des choses parce qu'il t'aime. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de trouver les mots. Voilà. Et donc, elle m'a proposé ce matin, elle m'a dit qu'on ne verrait pas le petit pendant les vacances, il ne nous l'amènerait pas.
Mais elle vous dit ça avec quelle intention? Est-ce que c'est vous avez un sentiment d'être puni de quelque chose?
Non, c'est que eux, ça ne leur convient pas, parce qu'il faut faire l'aller-retour, et que ils ne voient pas comment ils peuvent s'organiser pour le faire. Enfin, voilà. Donc ça ne leur convient pas, et ça perturberait son petit garçon, parce que voilà, elle a décidé que c'était trop pour lui, que c'était à nous d'y aller.
Bon, je dirais que c'est son choix. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, de le prendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est son histoire, c'est son couple, c'est son enfant. Elle a le droit de vous dire que ça ne lui convient pas. Mais dans ces cas-là, vous aussi.
Oui.
Oui. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'elle vous donne. Oui.
Pardon?
Non, allez-y, la communication n'étant pas très bonne, je vais vous laisser parler.
Oui, elle me propose d'aller de la retrouver à mi-chemin pour que je voie mon petit-fils, que j'aille moi à mi-chemin sur la route. Elle viendrait, on trouverait un endroit qui conviendrait aux enfants et pour que je puisse voir le petit.
Est-ce que vous, ça vous convient?
Pas du tout.
Bon. Mais je comprends. Qu'est-ce que vous lui avez répondu alors?
Pour l'instant, je n'ai rien répondu. Je prends le temps de réfléchir et de retrouver mon équilibre.
Oui, c'est une bonne chose. Ne jamais répondre dans la précipitation, dans la colère.
Oui.
Mais c'est curieux parce que ça a presque un côté... vous savez, quand il y a une garde partagée, qu'on se retrouve à mi-chemin avec... pour un peu, il y aurait presque une présence d'un tiers. Quoi. C'est curieux, cette façon de réagir et de réfléchir à une solution qu'elle a eue. C'est bizarre. Oui. Quelles sont ses relations avec ses frères et sœurs maintenant?
Alors, elles sont mauvaises, parce que du coup, elle s'est fâchée avec son frère. Et notre fille aînée nous disait, pas plus tard que dimanche dernier, elle nous disait que notre fille voulait aller dormir chez sa sœur. Voilà. Et notre fille nous a dit, on leur a laissé les clés, parce que quand ils viennent chez nous, on ne se sent plus chez nous.
Oui, donc a priori, le problème vient quand même d'elle, j'ai l'impression.
Ah ben, je suis d'accord.
Parce que souvent, quand il y a des mamans qui viennent se plaindre de leur fille, on se rend compte quand même que voilà, les torts sont souvent partagés et que les mamans aussi en sont maladroites. Mais là, quand je vous entends, quand j'entends tout ce qui se passe, je pense que c'est elle qui a un souci. Mais comme je vous le disais, je pense que le souci est en écho avec quelque chose de bien plus ancien.
Bien sûr.
Et le problème... Quel âge a-t-elle aujourd'hui? Je ne sais pas si vous me l'avez dit.
Elle a 34 ans.
34 ans, oui. Le problème, c'est que c'est une grande fille, quoi. Est-ce que vous avez... oui, d'après ce que j'ai compris, vous avez une bonne relation avec son conjoint?
Ah oui, il est vraiment gentil et très attachant.
Il est chouette, bon. Est-ce que vous avez un contact ou est-ce que vous pourriez avoir un contact avec lui sans qu'elle le sache, par exemple, de choisir de le rencontrer, d'aller déjeuner avec lui ou de lui parler au téléphone?
Alors, jusqu'à maintenant, alors c'est possible, jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais fait. Je vais vous dire pourquoi, Sabine. Parce qu'avec nos trois enfants, quand nous avons parlé à nos enfants, nous l'avons toujours fait en présence de leur conjoint, pour que tout soit dit, comment dire, vous voyez, que ce soit, en respectant le couple, vous voyez.
Oui. Mais là, je comprends tout à fait et je trouve ça très respectable. Mais là, je trouve que la situation est un peu différente. Peut-être vous pourriez juste lui faire par téléphone pour éviter que ce soit trop formel. Lui dire un jour, envoyer un petit SMS en disant « Est-ce qu'on peut se parler ?» Je ne comprends pas ce qui se passe, je m'inquiète.
Oui.
Peut-être que lui a une grille de lecture différente de la vôtre.
Oui, d'accord, Sabine. Je pense que je vais tenir compte de votre conseil parce qu'on en a déjà parlé, effectivement, et pour l'instant, nous ne l'avons pas fait, mais je crois qu'au vu des événements, on va le faire.
Il ne s'agit pas du tout, une fois de plus, de la prendre en traître ou de cacher des choses. Il s'agit simplement d'avoir une conversation calme avec quelqu'un que vous appréciez et qui, a priori, vous appréciez aussi. Et d'avoir peut-être un autre éclairage, parce que quand lui, il la voit forcément différemment. C'est son conjoint, il vit avec elle.
Oui.
Peut-être a-t-il une façon de faire différente maintenant. Vos deux autres enfants élèvent les leurs de manière classique, traditionnelle ?
Alors, notre fils, c'était très traditionnel au début. Il y avait beaucoup de sévérité, puisque nous, ils nous ont reproché d'être trop gentils avec nos petits-enfants. Ouais. Et qu'ils ont eu peur que nos petits-enfants se rapprochent trop de nous, vous voyez ? À un certain moment, ils ont été jaloux même de la qualité de la relation que nous avions avec leurs enfants.
Ce qui est un comble.
Ce qui a amené d'ailleurs à une situation où le lien a été coupé. Et en fait, après, quand ils sont revenus, au moment où je suis tombée malade, ils sont revenus vers nous. Et à partir de ce moment-là, on a développé un très très joli lien entre eux, entre nos enfants, avec nos petits-enfants. Et aujourd'hui, c'est vraiment super. Et ils ont fait un très beau chemin. Ils se sont occupés de leurs enfants pour que leurs enfants retrouvent un équilibre parce que les enfants étaient très stressés par des parents trop autoritaires, vous voyez. Mmh. Et donc, c'est tout. Je dirais qu'aujourd'hui, ils ont trouvé la juste mesure.
Oui, c'est ça. Parce que je vous dis ça parce que Dieu sait que je suis ouverte à tout ce qui est nouveau. Et à tout ce qui peut faire du bien aux enfants, maintenant, j'ai remarqué que les gens qui sont à fond dans l'éducation qu'on appelle positive maintenant sont quelquefois un peu extrémistes.
C'est et le surtout cas de notre fille cadette.
Sont quelquefois intolérants avec d'autres manières de faire. Et ça me pose un problème.
Parce que tout le monde est nul autour d'elle.
Voilà, c'est ça. Ils sont les seuls à avoir tout compris.
On a été des parents maltraitants. Enfin, tout ce qu'on entend, mais c'est effrayant.
Et Dieu, une fois de plus, Dieu sait que je suis ouverte à tout ça. Malheureusement, je trouve que c'est une façon de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Oui.
C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y a mille et une façons de faire bien mieux que ce qu'on a fait nous, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait était nul.
Voilà.
Et il y a cette génération-là qui prône cette éducation dite positive qui est dans, je pense, un excès.
Oui.
Et qui, j'espère qu'un jour, d'ailleurs, remettra le curseur au bon endroit, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que. Effectivement, ils ont l'impression d'avoir tout compris et que les autres ont tout faux tout le temps. Et ça peut générer beaucoup de conflits au sein d'une famille. La preuve, on est en plein là-dedans, quoi, si je comprends bien.
Oui, exactement. Et notre fille aînée a une fille qui a 12 ans et qui est c'est une super maman. Voilà. voilà.
Oui. Est-ce que vous en parlez avec les deux autres de vos angoisses, de tout ça ? Vous n'osez pas
alors,
non plus.
Les angoisses, écoutez, je me suis permis d'appeler notre fille aînée ce soir parce que je me suis dit c'est trop important, c'est trop grave. J'avais besoin d'en parler et j'ai pu le faire vraiment en toute confiance et toute tendresse avec notre fille aînée. Et Sabine, pour la petite histoire, il se trouve que notre fille aînée est psychologue. Mais vous voyez, en général, j'évite de parler de nos enfants des uns aux autres, voilà. Voilà.
Allô ?
Oui, je vous écoute. Salut.
Ah, j'ai eu peur qu'il y ait une coupure. Il n'empêche que ça vous a fait du bien d'avoir une oreille, une épaule même, je dirais, en l'appelant ce soir pour pouvoir lui parler.
Cela m'a fait énormément de bien parce que voilà, on a une très belle entente, une très belle compréhension et on s'épaule toutes les deux quand il y a besoin et quand tout va bien, ben on sait aussi se laisser tranquille. Voilà, donc ça se passe super bien, vraiment. Et elle, pourtant, qui est une super grande sœur pour sa petite sœur, donc elle-même, elle a conscience de, ben elle a conscience et on est tous démunis, voyez. Donc c'est compliqué.
Je comprends, mais je dirais que pour l'instant, il est urgent d'attendre.
Oui.
Si vous voyez ce que je veux dire, la première urgence, c'est vous et votre santé. Donc c'est ne pas vous laisser bouffer par ça. Vous savez, je dis souvent qu'il y a des combats qu'il vaut mieux ne pas mener.
Oui, je m'en souviens.
Et c'est pas pour rien que je dis ça, parce que certains combats nous mènent à l'usure directe.
Oui, oui.
Et que là, à un moment donné, il faut juste choisir entre vouloir avoir raison ou simplement vouloir être en paix.
Et voilà, exactement.
Si, pour l'instant, votre corps est en train de vous dire que l'urgence, c'est de retrouver la paix pour vous.
Oui.
Et puis je pense qu'elle va se casser le nez avec cette éducation-là. Régulièrement, il va y avoir des soucis. Et peut-être ça les mènera à plus de souplesse, à plus d'ouverture vers d'autres manières de faire, vous voyez.
D'accord.
Mais il faut peut-être lui laisser aussi faire son expérience et se casser la figure toute seule.
Oui, mais de toute façon, j'ai bien compris. Voilà, j'ai bien compris que je n'ai pas le choix.
Ben, c'est un peu ça, et c'est normal, c'est la vie.
Voilà, exactement.
Je pense que vous n'auriez pas aimé, étant quand vous étiez plus jeune et que vous aviez vos trois enfants à la maison, que votre mère ou votre belle-mère vienne vous dire comment il faut faire.
Oui, exactement.
Vous l'auriez peut-être aussi envoyé balader à l'époque. Je ne sais pas quels étaient vos liens avec votre maman ou vous-même, mais...
Voilà, alors moi, j'ai beaucoup aimé ma maman. Hélas, je l'ai perdue très jeune, j'avais 22 ans. Mais j'avais très bon contact avec ma belle-mère. Et ils ont été présents, ils ont été... vraiment, ils nous ont épaulés, ils ont été super.
Bon, bah, tant mieux. Il semblerait que dans cette famille, il y a quand même beaucoup d'équilibre, beaucoup d'amour. Donc, c'est plutôt joli, c'est plutôt positif. Et puis là, il y a une dissidente, on va dire. Il y a une branche là, qui n'est pas complètement dans l'axe, mais je pense qu'effectivement, c'est un combat à ne pas mener tout de suite, en tout cas.
D'accord, Sabine.
Je ne la vois pas vous menacer de ne plus jamais le voir ou faire du chantage comme ça. Ça n'a pas l'air d'être quand même dans cette direction-là qu'elle va. Je pense que c'est des petites provocations, surtout, qu'elle vous fait.
Oui, oui, oui. Et puis parce qu'elle voudrait nous faire céder et nous faire aller chez elle pour qu'on garde le petit là-bas, parce que c'est ce qu'elle a décidé.
Oui, ben quand elle se rendra compte que même si elle tape du pied par terre et qu'elle fait pipi partout, ça ne marche pas. Elle changera de comportement.
Voilà, d'accord.
C'est important aussi que les enfants, même quand ils sont grands, comprennent que quand on dit non, c'est non.
Voilà.
Et quelquefois,
oui,
les choses ne sont
pas
négociables.
C'est pour ça que même d'aller à mi-chemin, je ne le ferai pas.
Voilà, on est bien d'accord. Et votre santé, ça n'est pas négociable.
Ah non, ça c'est sûr.
Mais je pense que si vous savez, j'insiste beaucoup aussi souvent sur la force de l'intention.
Oui.
La manière dont on dit quelque chose à quelqu'un traduit une intention au-delà des mots. Et si elle comprend que votre intention, quand vous lui dites non, ça ne me convient pas, ça n'est pas de la provoquer ou de lui faire du mal, mais c'est de vous protéger, vous, je pense que le message peut passer de manière plus douce.
Voilà, c'est ce que nous lui avons dit hier après-midi. Nous lui avons dit, nous ne pouvons pas, nous avons changé de rythme parce que nous étions très fatigués, que notre santé était en danger et que nous n'allions pas attendre d'avoir un accident avant de vous dire qu'on ne pouvait plus le faire.
Exactement. Je pense qu'elle va comprendre ça. Une fois de plus, si l'intention
D'accord.
n'est pas vindicative, elle va le comprendre et les choses vont se tasser petit à petit, mais il va falloir aussi faire preuve de patience et laisser le
D'accord.
temps au temps, laisser les choses se faire et ne pas vous, surtout prendre sur vous. Parce que comme son nom l'indique, quand on prend sur soi, ça finit par coincer. Hein.
Oui, d'accord Sabine.
Vous l'avez déjà vécu, donc stop maintenant.
Oui.
Soyez vous et votre mari, soyez votre priorité.
Oui. Ah ben écoutez, nous, depuis le mois de septembre, nous nous régalons avec mon mari.
Ah, ça, c'est chouette. Le confinement aura eu aussi des effets positifs comme ça, hein, sur beaucoup de gens, finalement.
Ah oui, autour de moi, je l'entends aussi avec mes amis, oui. Oui, oui. Effectivement, sur le fait de revisiter ses priorités.
Exactement.
Oui. Et le fait d'avoir changé de rythme, il y a quelque chose de délicieux dans un rythme plus lent, plus doux.
C'est vrai. C'est vrai, puis ça, comme pour tout le monde, c'était une période d'introspection, comme vous dites, de chercher un petit peu où on en est, pourquoi on en est là, est-ce qu'on a envie d'y être aussi ou plus. Et c'est ce qui vous a permis aussi peut-être de vous repositionner par rapport à ce rôle de grand-parent qui est formidable, mais qui était trop... énergétivore, quoi.
Voilà.
Énergétivore, oui, ça doit se dire, je crois. Qui vous a pris, en tout cas, beaucoup d'énergie.
Voilà, exactement. Nous l'avons fait vraiment volontiers parce que nous savons ce que nous avons apporté aux uns et aux autres et nous l'avons fait vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup de conviction. Et nous réservons les vacances pour eux et avec bonheur aussi. Voilà, mais ce sont eux qui nous amènent les petits maintenant. Nous, on arrête de faire de la route.
Oui, ce qui me paraît logique, hein, vraiment. Une fois de plus, je vous dis, j'ai souvent au téléphone des mamans qui sont outrées du comportement de leur fille et finalement, quand on recadre un petit peu... Bon, elles ne sont pas non plus blanc-bleu, quoi. Elles ont aussi des comportements quelquefois indélicats. Mais là, je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça, quoi. Moi, je vous sens vraiment sincère, je vous sens avec un gros cœur, l'envie de faire au mieux pour tout le monde, mais aussi le besoin urgent de vous protéger maintenant.
Oui, et de vivre heureux.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça vous a fait du bien un petit peu de mettre tout ça
à plat? Ah oui, oui, Sabine, vraiment. Déjà d'avoir aujourd'hui de savoir que j'allais passer à l'antenne, ça m'a aidé à passer la journée et j'ai pu prendre rendez-vous aussi par chance avec comment ça s'appelle pour une séance de shiatsu. Vous savez, c'est un soin
tout
japonais.
À fait. C'est des massages. Je suis une grande fan des massages en shiatsu.
Ah voilà.
Alors,
ce n'est pas un massage, c'est un soin. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle un massage, en fait. Mais peut-être que ça s'appelle un massage aussi.
Alors, c'est à mi-chemin entre les deux. Ce sont des points d'acupression, un petit peu.
C'est ça.
Mais en même temps, on peut appeler ça un massage. Ce sont des points sur lesquels le thérapeute appuie avec son coude, avec son poignet, avec ses mains. Et qui
exactement,
dénoue
tout
les blocages.
C'est tout à fait ça.
Ça fait un bien fou, vous allez voir, c'est fabuleux, ça va vous faire du bien.
C'est
ça.
L'équivalent de l'acupuncture chinoise, mais sans les aiguilles.
Oui, tout à fait.
Et d'autre part, notre fille aînée, que j'ai eu au téléphone, m'a envoyé l'adresse d'une personne qui est kinésiologue.
Mmh.
Voilà, et elle m'a dit que c'est un travail qui est intéressant aussi, parce que ça travaille sur les blocages, sur les mémoires émotionnelles, donc ça peut être très intéressant. Donc je pense que je vais prendre rendez-vous pour aussi.
Tout à fait, ça travaille sur les mémoires du corps. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec un monsieur qui appelait la Libre Antenne pour poser des questions sur la kinésiologie.
Voilà,
et la micro-kiné, c'est effectivement ça travaille sur la mémoire musculaire, les mémoires du corps. Le corps garde tout en mémoire.
Voilà. Et comme j'ai peur sur le plan émotionnel, ça peut être intéressant, justement.
Tout à fait. Bah, écoutez, je pense que vous êtes sur le bon chemin, Marie. C'est bien. C'est chouette.
Merci beaucoup, Sabine.
Avec grand plaisir.
Voilà. Bonne soirée. Et prenez bien soin de vous également. Au revoir.
Merci, Marie. Au revoir. Et merci à Isabelle qui m'envoie un petit SMS pour me dire le mot que vous cherchiez était énergivore. Voilà, c'est fait. Merci Isabelle. C'est Véronique que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir à vous Véronique.
Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Véronique. Bon, il y a quelques années, j'avais 11 ans quand j'ai subi le viol de mes deux frères. J'en ai parlé avec Olivier Delacroix au mois de novembre l'année dernière.
Oui.
J'ai beaucoup souffert de tout ça. Je pensais me libérer de tout ça, quoi, parce que je voulais. Mon esprit le voulait. Mais je n'y arrive pas aujourd'hui, parce que plus j'avance dans la vie, et plus les enfants de mes frères violeurs, je vais dire de mes frères violeurs, m'en veuillent, me font des trucs, c'est vraiment inacceptable pour moi, quoi. C'est inacceptable parce que moi, je suis obligée d'être suivie par une psychiatre.
Mmh.
Et je leur en veux. Je leur en veux parce que j'ai dans ma vie fait beaucoup d'efforts. Je peux dire que j'ai deux enfants que j'aime profondément. Et qui le savent, c'est vrai, ils le savent. Je leur ai tout expliqué, la souffrance que j'ai eue. Et il n'y a pas tellement longtemps, j'ai découvert, parce que je me suis mariée à 16 ans, je me suis mariée très tôt. J'ai dit à mon mari que j'avais été violée par mes deux frères. Mon mari m'a empêchée de dire la vérité, alors que je n'avais que 16 ans. Je pouvais très bien la dire, cette vérité.
Pourquoi il a fait ça d'après?
Parce que son père lui a dit qu'il fallait que je ferme ma gueule. Voilà, tout simplement. Je ferme ma gueule parce que ce père se permettait de violer aussi. Excusez-moi du terme, mais aujourd'hui j'en ai appris beaucoup. Donc aujourd'hui je peux parler en libre. Parce que je vais maintenant dire la vérité à tout le monde, tous ceux qui ne me croient pas. Parce que j'en ai un peu marre qu'on se foute de ma poire comme ça, quoi. Je trouve ignoble de s'en prendre à quelqu'un qui a été violé par ses deux frères. et de aujourd'hui de lui tourner le dos comme ils le font tous. Ils me tournent le dos parce qu'aujourd'hui, parce que je leur annonce que je vais attaquer, maintenant j'attaque au tribunal, j'ai pris contact avec un avocat qui s'occupe de mon affaire, donc je vais le faire. J'attaque au tribunal parce que je n'en peux plus. Dans ma tête, ça ne va pas, malgré que j'ai rencontré une personne que j'aime profondément, mais ça ne va pas. Je me rends compte aujourd'hui que je n'avancerai pas tant que je n'aurai pas réglé cette situation.
Bien sûr.
Parce que le premier violeur est mort. J'ai perdu un de mes deux violeurs. Il avait 39 ans. 39 ans, il avait. Et j'ai été jusque son lit de mort. Et sur son lit de mort, il m'a demandé pardon. Un pardon que je n'oublierai jamais. Parce que ce pardon m'a permis, à l'âge que j'avais, malheureusement, de jouir pour la première fois de ma vie.
Oui, ça vous a fait du bien à vous aussi, oui.
Oui. Oui. Donc, j'ai essayé, moi, de contacter l'autre violeur, pas recommandé, avec accusé de réception. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je lui ai dit, demande-moi pardon, c'est tout ce que je te demande. Je n'ai jamais eu aucune réponse de sa part. Je veux vous dire aujourd'hui que vraiment j'en suis peinée parce que j'aurais voulu avoir ce pardon. Mais vu que je ne l'ai pas, je vais aller le chercher en justice, ce pardon. Je vais aller jusque la justice parce que je veux que toute ma famille soit présente pour attendre la vérité là où elle est. Parce que la vérité, on ne croit pas. Tout le monde me dit que je suis une menteuse, que je raconte n'importe quoi. Vous croyez qu'on raconte comme ça une histoire qu'on a vécue
Non, bien sûr que non.
On ne peut pas vivre avec ça toute sa vie, c'est pas possible. Il faut que tôt ou tard, cette vérité explose.
Il a quel âge ce frère aujourd'hui?
Aujourd'hui, mon frère, il doit avoir dans les 67 ans ou 66 ans. Mais moi, aujourd'hui, je vais avoir 60 ans l'année prochaine. L'année prochaine, j'aurai 60 ans. Mmh. Et moi, ça fait exactement 60 ans. Enfin, j'étais violée à 11 ans. Donc, ça fait maintenant 49 ans que je vis avec ça sur ma conscience. Sur ma conscience. Mais personne ne peut vivre avec ça sur une conscience parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est quelque chose qui est ancré en vous. C'est une chose qui m'obsède.
Bien sûr. Et la double peine quand on a été violée et qu'on attend un soutien et qu'on ne le reçoit pas, c'est terrible. C'est terrible. C'est comme si on se prenait une gifle une deuxième fois. Quoi.
Voilà, on se prend des claques. On se prend des claques alors qu'on n'a pas le droit de jeter des claques. Au contraire, nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est le soutien des gens, des personnes qui nous comprennent, qui essayent de nous comprendre. Mes enfants me comprennent. Mon fils me comprend. Il fait tout pour me comprendre. Il le sait. Je le sais. Je le sais dans le fond de mon cœur qu'ils sont avec moi. Mais vous voyez, la souffrance que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque à moi aussi. Parce que j'ai été dans le Nord. Je suis obligée d'aller dans le Nord. C'est dans le Nord que ça s'est passé. Hein. Donc j'ai été obligée d'aller dans le Nord pour voir mes petits-enfants. Il faut quand même que je voie mes petits-enfants. On m'a percé mon pneu de voiture pour que je crève. On m'a percé mon pneu de voiture. Ouais. C'était un cutter qui m'a percé mon pneu de voiture. Ouais. Bon, ça ne se perd pas cet endroit-là. Donc, on a attenté à ma vie. Après ça, je suis rentrée chez moi et 3 semaines après, je découvrais ma voiture dans mon parking privé. Dans un parking privé, ainsi que celle de mon fils, rempli de griffes. On m'avait griffé ma voiture. On m'avait détruite ma voiture. Donc j'ai dit, ça ne peut plus continuer.
Ce sont des tentatives d'intimidation, vous pensez?
Ah oui, 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 oui. Et en plus, ma mère est décédée il y a 4 ans de ça, 4-5 ans de ça. Et ce jour-là, quelqu'un m'a fait comme un couteau sur la gorge, me disant « tu vas mourir ».
Mais qui est ce quelqu'un?
C'était un fils de mon frère qui était décédé.
Ah oui, d'accord. Oui. Il y a beaucoup de haine dans cette famille-là, hein, dis donc.
Oui, oui, il a été me persécuter jusque dans le train que j'ai pris pour entrer sur Paris. J'ai dû aller chercher les gendarmes de Clary, dans le Nord, bien sûr, pour me mettre dans le train. Ils ont vérifié wagon par wagon pour voir s'il n'y était pas.
Vous avez déposé...
Non.
Vous avez déposé une main courante, au moins, contre lui ?
Mais j'ai déposé plusieurs mains courantes contre lui. Ouais. Mais rien n'aboutit, rien n'aboutit. Alors maintenant, on en vient à la justice, tant pis. On va y aller, à la justice. Parce que c'est plus possible. C'est plus possible.
Je pense, bien sûr.
J'ai peur de retourner dans le Nord. J'ai peur. La peur est en moi, quoi. Je peux pas dire que quand je retourne dans le Nord, je suis quelqu'un qui ne regarde pas à droite et à gauche. Je suis obligée. Et là, je ne sais pas si c'est le hasard, mais ma belle-fille, qui est avec mon fils actuellement, a eu aussi sa voiture de lacérée de griffes. Est-ce que c'est les mêmes ? Je ne sais pas.
Oui, ça, vous ne pouvez pas être sûr. En tout cas, je pense que vous avez entièrement raison de saisir la justice. Est-ce que c'est un projet ou est-ce que ça a commencé ?
Non, j'ai reçu les papiers, je suis en train de les formuler. Tous les papiers sont en train de se faire. J'ai demandé que toute la famille soit convoquée au tribunal. Toute la famille, toute. Tous ceux qui restent, parce qu'on a eu beaucoup de morts entre deux. Mais je veux que tout le reste de la famille soit là pour entendre ce que j'ai à dire.
Mmh. Je trouve ça très, très, très courageux de votre part et probablement ce sera très libérateur aussi.
Oui, parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour me reconstruire et pour vivre ma vie telle que je veux la vivre aujourd'hui. Je veux vivre une vie que je n'ai jamais eue. Et je veux la vivre, même à 60 ans, je m'en fous. Le principal, c'est que cette vérité explose une bonne fois pour toutes.
Tout à fait.
Parce que c'est très compliqué pour moi. Je ne sais pas comment je peux exprimer la souffrance que je ressens. J'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal de dire ce que je ressens. Mais cette haine qu'ils ont envers moi, je ne la comprends pas. Parce que je ne suis pas une personne méchante. Je suis quand même une personne humble, qui rend beaucoup de services.
Je pense que c'est pas forcément de la haine, c'est tout simplement que vous leur mettez un miroir de ce qu'ils sont face à eux. Et c'est tellement minable ce qui a été fait qu'ils n'arrivent même pas à regarder en face ce qu'ils ont fait, quoi.
Oui, ils n'arrivent pas à concevoir que leur père ait pu faire ça. Mais leur père l'a fait. Il l'a fait.
Oui, mais oui. Mais ça
ils
les met en face
tous
de. Ça les met en face de quelque chose qui est insupportable pour eux.
Mais oui, mais si c'est insupportable pour eux, c'est encore plus insupportable pour moi aujourd'hui.
On est bien d'accord.
Parce que je ne conçois pas qu'on puisse s'en prendre à moi et à mes propres enfants maintenant. Qu'on me laisse tranquille. S'ils veulent s'en prendre à quelqu'un, qu'ils s'en prennent à moi, toute seule. Mais qu'ils s'en prennent pas à mes enfants. Même
à vous, Véronique, c'est juste inadmissible. Et vous faites bien de mener ce combat et d'aller au bout de ce combat que j'espère vous allez gagner parce que c'est inacceptable ce qui se passe.
Mais oui, ça. Bon, ici, ça va faire 9 ans que j'ai déclaré à la police. Ça fait 9 ans parce que je l'ai fait quand j'ai divorcé. J'ai divorcé de mon mari, mon ex-mari. J'ai divorcé de mon ex-mari. Et d'ailleurs, à cette période-là, c'est lui qui m'a... Pardon. C'est lui qui m'a dit... que son père lui avait interdit que je dise une vérité. Bien sûr, si je disais la vérité, tout allait exploser ici pour lui. Vous savez bien que...
Le joli vernis allait craquer, oui.
Oui, on allait rechercher dans le passé de ce monsieur aussi. Automatiquement, je portais leur nom, je portais le nom Boitiot. Donc, j'étais dans le truc, quoi. J'étais dans le contexte. Il faut être réaliste. Donc voilà quoi, c'est très compliqué pour moi, vous savez, parce que moi aujourd'hui je veux vivre une vie simple, je ne suis pas quelqu'un qui est méchante, je ne suis pas quelqu'un qui cherche la merde, je ne cherche pas cette merde, mais on me l'envoie en pleine figure, on revient et on me le claque en pleine figure, pourquoi, je ne sais pas, est-ce que ça les dérange aujourd'hui? le bonheur arrive chez moi, dans ma maison, je sais pas.
Moi, je pense qu'ils n'ont pas le courage d'assumer tout ce qui s'est passé avant, et c'est juste de la lâcheté, principalement.
Mais c'est de la lâcheté, oui, c'est sûr que c'est de la lâcheté. Mais comment il suffit. Maintenant, la seule solution, c'est de résoudre ce problème en justice, parce qu'on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Ils ne comprennent pas, mais ils vont comprendre. La justice va se réveiller, de toute façon. Tout le monde va être à l'attente de ce que je vais pouvoir dire. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est confronter ce dernier violeur et de lui dire en face, tu es vraiment le roi des dégueulasses. Parce que ça fait des années, ça va faire 9 ans que je te demande un pardon. Ce que ton frère a fait, toi, tu ne l'as pas fait. Donc moi, aujourd'hui, j'ai des complications parce que ma vie sentimentale n'a jamais été
Véronique, pardonnez-moi, les informations arrivent. On marque une pause, si vous le permettez.
Oui.
Hein, je vous récupère dans quelques minutes. Merci.
D'accord.
Vous écoutez Europe 1, il est minuit, c'est l'heure des infos avec Anne Le Gall.
Il y aura un travail à faire avec les élèves, de toute façon, à la rentrée, qui permettra de tirer parti de cet événement tragique. Je crois que c'est ça qui est important.
Je suis enseignant, je suis Samuel. Voilà quelques-uns des slogans brandis dans les cortèges de plusieurs villes de France cet après-midi. En hommage à Samuel Paty, l'émotion était particulièrement vive chez les enseignants. Des mesures pour renforcer la sécurité des établissements scolaires, c'est l'une des promesses après le Conseil de défense à l'Élysée ce soir. Vous entendrez aussi Jean-Michel Blanquer qui a tenu à rassurer sur la laïcité à l'école aujourd'hui. Et puis en foot, Lille de nouveau leader de Ligue 1 ce soir après sa victoire écrasante 4-0 face à Lens.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers toute la France pour rendre hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné, pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Des rassemblements à Paris, Lyon, Marseille, Nice ou Toulouse notamment. L'émotion était particulièrement vive chez les enseignants. C'est ce qu'a pu constater Maximilien Carlier, notre correspondant à Lille.
Je porte une affiche où il est marqué que je suis enseignante et que je défends la liberté d'expression, ainsi qu'une Marianne qui pleure. J'ai été choquée.
On est quasiment certain que le jeune de 19 ans qui a commis cet acte, c'est la résultante d'un ensemble d'échecs, scolaires, mais aussi social.
Notre collègue est mort en quelque sorte au front en allant faire son travail. Le travail d'un enseignant, c'est de développer l'esprit critique chez les élèves, au-delà des préjugés que chacun peut avoir pour différentes raisons, mais de déconstruire ses préjugés. Et c'est précisément parce que notre collègue avait ça à cœur qu'il a été assassiné.
Il y aura un travail à faire avec les élèves, de toute façon à la rentrée, qui permettra de tirer parti de cet événement tragique et peut-être de leur faire mieux comprendre ce pourquoi on fait le métier en fait. Je crois que c'est ça qui est important.
À Paris, des milliers de personnes se sont également réunies place de la République, place symbolique de laquelle était partie la marche républicaine du 11 janvier 2015 après les attaques contre Charlie Hebdo. Un rassemblement auquel s'est joint le Premier ministre Jean Castex. « Nous n'avons pas peur, vous ne nous diviserez pas », a tweeté le Premier ministre cet après-midi. Il était accompagné sur place de Marlène Schiappa et du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer qui a tenu à rassurer la communauté enseignante.
La République a été attaquée parce qu'un professeur a été assassiné. Et donc, quelles que soient nos différences politiques, syndicales ou autres, il faut manifester de l'unité et montrer que nous n'avons pas peur face aux ennemis de la République. C'est aussi simple et clair que ça. Sur le sujet de la laïcité, depuis que j'ai pris mes responsabilités, je n'ai cessé d'attirer l'attention sur ce point et de dire que chaque professeur de France doit être soutenu quand il est dans une situation comme celle-là. C'est ce qui se passe au travers de ces équipes Valeurs de la République qui viennent chaque fois qu'un enseignant appelle. Quand un professeur a le sentiment que ce n'est pas ce qui se passe, eh bien, il doit le signaler à l'institution. Il y a une adresse mail, un numéro vert, de façon à ce que ce soutien ait lieu. Et mon message n'a pas changé et ne changera pas. C'est évidemment soutien aux professeurs.
Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer au micro de Jean-Gabriel Bourgeois. 11 personnes sont toujours en garde à vue ce soir dans le cadre de l'enquête sur cet assassinat. Et l'information de la soirée, c'est aussi le Conseil de défense qui s'est tenu à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a promis des mesures fortes pour renforcer la sécurité des établissements scolaires à la rentrée et mieux contrôler la propagande islamiste radicale sur les réseaux sociaux. Un mot de foot, Lille est le nouveau leader de Ligue 1 ce soir après sa victoire écrasante 4-0 face à Lens. Écoutez la réaction de Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille au micro de Lionel Gougelot.
C'était le bon scénario d'ouvrir le score rapidement et aussi de mettre ce deuxième but assez rapidement en début de deuxième période. Mais on l'avait préparé très sérieusement. Évidemment que ce match avait une importance pour mes joueurs, voilà, de donner, envoyer une belle image et surtout donner une victoire à nos supporters qui, depuis beaucoup de mois, ne peuvent pas assister au match. Voilà, rendre la fierté à travers, évidemment, une victoire et une belle performance. On savait que la victoire allait nous placer à la première place dans ce début de championnat. On est sur une bonne dynamique. C'était une belle soirée.
La satisfaction de Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille. On passe à la météo avec vous, Valérie Darmon. Des températures dans la normale et de la douceur dans le sud-ouest.
Et oui, avec 24 annoncés à Biarritz, 23 à Pau et Tarbes, 21 à Mont-de-Marsan et Montauban. On le voit, ces températures qui continuent de grimper, 20 degrés dans le Bordelais et à Perpignan, 18 à La Rochelle et Châteauroux, 17 à Rennes et à Tours, 15 degrés à Reims et Beauvais, 14 degrés à Lille et pour Paris, 15 degrés dans l'après-midi. Côté ciel, beau, grand beau même entre les Pyrénées et les Alpes, plus ou moins ensoleillé de la Bretagne, Hauts-de-France et bassin parisien. Nuageux de plus en plus sur le Languedoc-Roussillon, annonciateur de l'épisode Cévenol, dès mardi jusqu'à vendredi.
C'était la météo de Valérie Darmon. Il est 5:00. Très bonne soirée à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, vous retrouvez la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
On se retrouve donc pour la deuxième et dernière partie de cette Libre Antenne. Nous sommes encore ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à nous appeler. Vous faites le 39-21, vous tomberez sur Estelle ou sur Maxime qui vous amèneront ensuite jusqu'à moi. Pour réagir par SMS, apporter un soutien, une idée, demander à rentrer en relation avec quelqu'un, par exemple, qui vous a touché, vous faites le 7-39-21, suivi du mot « nuit » et de votre message signé par votre prénom. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Je répète ça tranquillement, 39-21 pour le téléphone, 7-39-21 suivi du mot « nuit » pour vos SMS et libreantenne@europe1.fr pour vos mails.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et je retrouve Véronique. Vous êtes là, Véronique ?
Oui, je suis toujours là, oui.
Vous me disiez avant les infos avoir été violée par vos deux frères à l'âge de 11 ans.
Oui.
Depuis, l'un de ces deux garçons est décédé, l'autre est toujours en vie. Il a des enfants qui vous pourrissent la vie, qui vous menacent, qui vous mettent...
Ainsi que les autres, oui.
Ouais, et toute la famille finalement vous tourne le dos et personne n'est fichu de vous soutenir dans cette injustice
non.
totale. Et donc vous avez décidé maintenant.
Oui. J'avais une sœur que j'aimais comme ma maman. Une sœur qui m'a élevée, qui m'a élevée comme si c'était ma propre maman parce que elle savait ma souffrance. Toute petite que j'étais, j'ai toujours été en souffrance. Je suis quelqu'un qui a été pris pour le vilain petit canard de la maison. J'étais la bonne de service, si vous préférez, de chez moi, déjà. À une période, à 8 ans, je faisais déjà les lessives. Je faisais déjà le ménage. On m'empêchait d'aller à l'école pour pouvoir faire le ménage, pour pouvoir m'occuper de mes frères et sœurs. C'était une honte. C'était une honte pour moi. Parce que moi, aujourd'hui, je ne sais pas garder d'immeuble. Aujourd'hui, je pense que j'aurais autre chose dans ma vie. Que ça. C'était pas ce que je voulais faire, voilà. C'était pas ça ma vie.
Il y a eu beaucoup d'injustice dans cette vie-là.
J'ai fait un livre sur ma vie qui normalement devrait être publié par une écrivaine qui va venir me voir et on va l'écrire à deux. Et je vais l'écrire ce livre. Je vais l'écrire. Parce que j'ai envie de raconter au monde entier que dans des familles nombreuses, il arrive toujours des drames à un des enfants et que personne ne parle parce que tout ça c'est tabou, tout ça on n'en parle pas, on ne dit rien. On ne peut pas dire aux gens vous serez privé de repas parce que on n'a rien à manger, parce que on n'a rien à vous donner. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça à des enfants. Si on fait des enfants, c'est tout au moins pour les élever correctement et leur donner à manger, leur donner de quoi vivre. Mais eux, ce n'était pas ça. Eux, c'était eux. C'était eux la priorité. C'était leur problème à eux. Ma mère, à partir du 15 de chaque mois, elle n'avait plus un centime. Elle n'avait plus un centime. Donc, les 15 derniers jours, il fallait qu'on se débrouille, qu'on vive avec du pain, du sucre, qu'on se débrouille. Il fallait se nourrir de ça, quoi. C'était une honte. J'ai vraiment vécu un enfer de petite fille qui n'avait pas lieu d'être. J'aurais préféré mourir, j'aurais préféré ne pas venir au monde. Pour subir tout ce que j'ai subi dans ma vie, j'aurais préféré ne pas être là aujourd'hui. C'est malheureux de dire ça, mais...
Et en même temps, Véronique, vous avez réussi à construire une vie de femme et à devenir maman. Il y a de belles choses qui sont sorties de tout ça, finalement. De ce tas de fumier, il y a une belle rose qui a poussé. Hein.
Oui, mais j'ai été trompée pendant 35 ans avec mon mari. 35 années de vie commune et 35 années de tromperie. De tromperie. Ce qui s'appelle être trompée. Tout le temps. Donc, je crois que j'ai voulu quitter le cocon familial pensant avoir trouvé un être qui m'aurait aimé pour ce que j'étais, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça, ça s'est passé autrement. Et malheureusement, je l'ai quitté 35 années plus tard, parce que je me suis dit, il est temps que ça s'arrête. Il est temps. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai pu aller au commissariat et dévoiler le viol de mes deux frères. Mais bien sûr, c'est tabou maintenant. Il faut être réaliste que quand je me suis pointée là-bas, on m'a dit, écoutez, 35 ans après, vous risquez qu'on ne vous croit pas. Mais c'est rien. On me croira peut-être pas. Mais je préfère aller en justice et faire entendre ma voix.
Ouais. Vous avez bien raison. Une fois de plus, je trouve que c'est très courageux et que vous avez raison de le faire parce que, quelle que soit l'issue, ce sera libérateur pour vous. Vous allez oser pour une fois dire j'existe, je prends ma place et je suis là, quoi.
Oui, voilà. Et c'est grâce à mon ami, à mon nouvel ami que j'ai rencontré pendant le confinement. J'ai rencontré un ami qui m'apporte beaucoup de soutien. Et grâce à lui, je vais pouvoir me projeter. Parce que je sais qu'aujourd'hui, lui-même, même pour ce que je suis, même plus que je ne pensais.
Ça, c'est formidable. Ça, c'est chouette d'entendre ça. Dites-moi, comment vous avez fait pour rencontrer quelqu'un pendant le confinement, vous ? Il était dans votre cuisine ou dans le salon, caché quelque part ?
Non, on discutait sur Badou. On s'est rencontrés sur Badou, un site de rencontre.
Ah, d'accord. Okay.
On s'est rencontrés sur un site de rencontre. Et je vous jure que je n'y croyais plus parce que j'avais dit à tout le monde, c'est le dernier, ça sera le dernier. Si ça passe pas, tant pis, on arrête. J'arrête. Ouais. Parce que franchement, j'en ai marre.
Et vous voyez que la vie réserve encore des belles surprises.
Oui, et je suis très heureuse aujourd'hui avec cet homme parce qu'il m'apporte beaucoup. Il m'apporte beaucoup. C'est vrai, il m'apporte beaucoup.
Il va vous donner la force de franchir ce cap-là et d'aller de l'avant maintenant.
Oui, et il me dit je te suivrai.
Bon, c'est une grande chance. Ouais.
Je veux que tout ça cesse. Ça fait 9 ans que tu subis leurs critiques, leurs insultes. C'est du mépris. C'est du mépris. On m'a traité de putain parce que j'avais eu des enfants à 16 ans et 17 ans, je trouve ça honteux. Mais mes enfants, c'est le père de mes enfants, j'ai vécu 35 années avec lui, je crois que je n'ai pas fait de gaffe. Je n'ai jamais trompé mon mari sur les 35 ans que j'ai vécu avec lui. Lui, il l'a fait, mais pas moi. Donc je crois qu'aujourd'hui, je peux avoir la tête haute. Même si j'ai profité de la vie après, que j'ai pris des hommes dans ma vie. Mais j'avais le droit, j'étais seule. J'ai été libérée de cet homme. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va venir me critiquer, moi. Pourquoi autant de critiques? Pourquoi autant de méchanceté? Je crois qu'on a le droit de vivre, qu'on a le droit aussi de profiter des instants qui nous restent. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans le 9 mars. Et je peux vous dire que ces 60 ans-là, je vais les fêter, mais dignement. Parce que j'aurais certainement passé en justice et que je serai tranquille.
Et j'espère pour vous vraiment que ce sera un nouveau départ avec plein de bonheur.
Bah, je le souhaite de tout cœur, vous savez, parce que du bonheur, j'en ai jamais eu beaucoup de la part d'un homme. J'en ai eu beaucoup de la part de mes enfants et de mes petits-enfants. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, mes enfants m'aiment et que mes petits-enfants m'aiment aussi et que j'ai des belles-filles qui m'aiment. J'ai beaucoup d'amour près des miens, près de tout ce que... Parce que j'aurais donné beaucoup d'amour malgré que moi, j'en ai jamais reçu.
Ça, c'est formidable. Vous allez récolter maintenant tout ça, Véronique, vous allez voir.
Ben, je l'espère beaucoup.
Je vous le souhaite du fond du cœur. Vous avez été quelqu'un de très courageux dans votre vie. Vous allez encore l'être pour ce coup-là crier haut et fort qu'il faut que ça s'arrête. Oui, et vous autorisez vraiment maintenant, après, à passer à autre chose et à être heureuse avec cet homme-là dans votre nouvelle vie.
Et voilà, oui, c'est surtout ça, quoi. Oui, oui, j'ai trouvé l'être que j'aime, donc avec qui je veux vivre le reste de ma vie, quoi, parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup depuis que je le connais. Qu'on se connaît tous les deux, même pour lui, je pense que c'est réciproque.
Donc, quand l'action en justice sera intentée, après vous passerez à autre chose. Vous arrêterez de regarder derrière et vous regarderez à côté de vous et droit devant.
Et oui, je pense. Je pense là, je pourrais relever ma tête et ne plus penser à quoi que ce soit d'autre que d'être heureuse, que de retrouver... le bonheur que j'avais oublié, malheureusement.
Je vous le souhaite du fond du cœur, Véronique.
Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Merci. Merci
beaucoup. Je vous embrasse.
Et moi aussi. Amicalement. Voilà, au revoir.
Et c'est Babette que j'accueille maintenant. Bonsoir, Babette.
Bonsoir Sabine, bonsoir Europe 1.
Bienvenue à vous Babette.
C'est Babette de...
Ça résonne un peu, est-ce que vous avez un haut-parleur Babette?
Non, sur mon téléphone.
Des oreillettes?
Non. Ah, non, c'est ma voix.
Ok.
Voilà. Je parle moins fort peut-être, non?
Oui, c'est un peu mieux là comme ça, mais il y a une caisse de résonance comme si vous aviez mis un haut-parleur, mais bon, c'est pas grave, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène,
Babette? D'abord, comme c'est le Libre Antenne, je tenais à rendre hommage au corps de l'éducation nationale en ce jour de deuil et de fraternité. Mmh. Et je tenais à rendre hommage à cette personne décédée, cet enseignant décédé. Voilà. Et je suis de tout cœur avec les enseignants et les éducateurs.
Oui, on l'est tous.
C'est un jour énorme. C'est un jour énorme. Il faut qu'on aille vers du nouveau. Il faut qu'on aille vers du ciel bleu, un peu, vers du soleil. Il faut tourner ces pages atroces. Comment dire, ces pages atroces de kamikaze, ça, etc., etc. Il y en a marre de tout ça. Il y en a marre. C'est... Voilà. Déjà, je tenais à rendre, comme c'est le Libre Antenne, je tenais à faire cette introduction. Ensuite, je suis très touchée par le témoignage de Véronique auparavant.
Oui.
Quelle résilience et quelle dame extraordinaire, quel voyage toute sa vie jusqu'à 60 ans en mars, toute sa vie violée à 11 ans. Franchement, je tire mon chapeau. Et Camilla, elle a craché le morceau là, à la Libre Antenne en direct. Franchement, elle a eu du courage.
Elle est forte. Hein.
Elle est forte. est très fort. Bravo, bravo, et qu'elle se batte. Et la personne qu'elle a rencontrée, je sais pas, sur son pendant le confinement, elle va l'aider et le soutenir. Et j'espère qu'elle trouvera le bonheur et qu'elle sera en paix avec elle-même.
Oui, je lui souhaite aussi.
Voilà. Quant à moi, je suis...
Venons-en au cœur du sujet. Donc.
Je viens vers votre bienveillante oreille et chaleureuse écoute et main tendue vers la mienne peut-être, je ne sais pas, vers le soleil du sud. Vous êtes à Paris, donc oui. Vous êtes à Paris. Donc, dans les ondes, il y a l'Hérault et au-dessus, un peu à gauche, il y a le grand pont Aveyronnais, le plus grand pont du monde.
Oui.
Et sur la gauche, il y a le lac de Parlou et il y a une petite cabane, une petite maisonnette dans l'Aveyron où il y a un sculpteur peintre qui est mon mari toujours. On est séparés. Et. On a été mariés pendant 35 ans. On est toujours mariés, on est juste séparés. Bon, moi, j'ai toujours été fidèle. On a eu deux enfants et il s'est permis de me tromper avec une autre femme qui, elle, a été violée et qui a eu un enfant d'un viol. Donc, et elle vit, elle, sur Rodez toute seule. Lui vit sur l'Aveyron, sur la petite maison toute seule. Et moi, je vis sur les roues toute seule. J'ai mes deux enfants pas loin, qui n'ont pas beaucoup de bonheur. Mmh. Donc, que pensez-vous de la situation? Quoi faire? C'est indélébile, je ne sais pas. Est-ce que je l'aime encore? Est-ce que je l'aime plus? Est-ce que j'ai fait tracer une page sur ça? Je sais pas, on s'appelle tous les jours, on est des copains, hein, mais on est des copains.
Alors attendez que je comprenne bien l'histoire, Babette, parce que là vous y allez un peu vite. Ouais. Vous l'avez rencontré à quel âge cet homme?
22 ans. Je l'ai rencontré à 22 ans. Lui a eu le coup de cœur tout de suite, le coup de foudre tout de suite, pas moi. Je suis restée 2 ans en copain déjà. Et puis après, c'est moi qui l'ai appelé, puis on est allé au cinéma, et puis en rentrant, on a dansé sur un flot de Scorpion.
Les dégâts commis par Scorpion.
Tout à fait, je suis moi-même Scorpion. Donc, on s'embrassait sur Scorpion, et puis voilà, et puis après...
Attendez, que les choses soient claires pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de musique et de musiciens, là, il ne s'agit pas du signe du zodiaque. Quand on parle du Scorpion, c'est le slow langoureux qui a vu des milliers de couples se former.
En 83, c'était.
Oui, c'est ça, on est de la même génération, pas loin en tout cas, oui.
Tout à fait. Et puis depuis, on est parti à Lyon, il a fait les Beaux-Arts, une année de Beaux-Arts à Lyon... puis après on est redescendu parce qu'il m'a demandé en mariage au bout d'un an de Lyon. Il n'a même pas passé son examen de deuxième année. Il est en redescendu parce qu'il devait se marier. Et moi je lui ai dit oui, si on se marie, moi je m'en manquais, ça ne me faisait rien de me marier, qu'on soit marié ou pas c'était pareil pour moi. Et puis voilà, et puis après on a le parcours de la vie alimentaire. Et puis le parcours de la vie pour avoir des enfants, parce que des fois, on est stérile. Donc, on s'est battu, on a pu avoir notre première fille. Ensuite, quand on a voulu, on a décrété de faire la deuxième, on a fait le deuxième, et puis voilà, et puis la vie est là, et puis notre fille a 29 ans bientôt, et mon fils a, notre fils a 23 ans, et voilà. Et on est, moi, je suis là avec eux deux, et chacun, lui avec sa copine, et mon fils, hein, lui avec sa copine, dans un studio que les parents ont à côté de leur villa, et ma fille chez elle, dans son S2. Bon, voilà. Comment?
Je veux savoir, à l'époque de cette fabrication de bébé, vous m'avez dit que c'était compliqué. Lequel de vous deux avait des problèmes pour avoir un enfant?
C'était moi. C'était moi parce que je n'ovulais pas. Je n'ovulais pas. Hein. Je n'ovulais pas. Au contraire, je les désirais tellement. Je n'ovulais pas et j'ai rencontré. Je me suis battue contre tous les gynécologues de la place de Montpellier. À l'époque, tout le monde me disait que j'aurais pas d'enfant. Et donc, je me suis battue et j'ai obtenu gain de cause car j'ai rencontré le docteur Mylène Brink, un super gynécologue obstétricien à Castagnon-de-Lez, derrière la rue Pierre-Curie, en descendant en droite de l'église. À l'époque, c'est un gynécologue obstétricien là, magnifique, fabuleux.
Comment il a été votre mari dans cette période-là?
Ah, il était extraordinaire. Il venait à tous les rendez-vous.
D'accord. Okay.
Très, très à l'écoute, très attentionné. Mais on a tout fait ensemble. Hein. Tout. On s'est battu toute la vie, tous les deux. Hein. Tous les deux.
D'accord. Donc, vous étiez un couple solide.
Après, solidaire. Toute la vie, on a été solidaire. On a traversé toutes les épreuves ensemble, main dans la main. Moi, je vous assure, Sabine. On a tout traversé, tous les deux. Tous les hauts et les bas. Et on a tout traversé et il a assisté à la
puissance.
Elle est sortie comme une lettre à la poste, Aurélie. Elle est sortie comme une lettre à la poste. Il a assisté à l'accouchement, il a coupé le cordon ombilical alors que lui était très, très fragile, très sensible, très, 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 très délicat. Et ensuite, il est rentré à l'hôpital pour travailler dans la restauration. Et il est devenu sculpteur à la longue, parce qu'au départ, il était peintre. Et ensuite, il est devenu sculpteur. Il a créé d'ailleurs la sculpture qui est sur le village à côté des tennis, donc qui s'appelle Rencontre, une sculpture en calcaire de Nîmes, calcaire du Gard. Une belle sculpture. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé alors pour qu'il vous trompe un jour?
Il a coupé un câble parce qu'il n'était pas heureux il n'était pas heureux dans son travail. Quand il revenait de l'hôpital, il peignait, mais il s'était mis à boire à une époque.
Ah.
Il s'était mis à boire à une époque.
Mmh.
Et moi, il n'était pas heureux ici, parce que ce qu'il voulait faire, c'était de la peinture ou de la sculpture. Pourtant, il en faisait, hein, puisqu'il a tout fait, toutes ses œuvres, toute son œuvre de toute sa vie, il l'a fait à moitié dans l'Hérault, et maintenant qu'il est dans l'Aveyron, il fait son œuvre, il continue son œuvre.
Alors, c'était pas la raison, alors, puisqu'il en faisait.
Il en faisait, ouais, c'était pas la raison, non, il en faisait, il disait ce qu'il voulait, mais il a fait un câble, il est tombé amoureux de toutes, à la crise de la quarantaine, il est tombé amoureux de toutes les jeunes filles, de toutes les femmes, il s'est mis à faire du vélo dans tous les alentours, il a minci, il plaisait à toutes les femmes, du moins, il croyait. Il se rembarrait tout le temps, et voilà, il a pété un câble. Il est allé voir une pute, ensuite il est allé voir une jeune fille de 34 ans, il y a 3 ans, et il est allé voir une jeune fille de 34 ans, une amie à nos amis, qui était peintre aussi, peintre-sculpteur, une certaine Jeanne, qui a détruit le couple, là. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, il y a 3 ans.
Ah.
Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, parce que du coup, il est resté là-haut, dans l'Aveyron. Et maintenant, il vit là-haut. Et voilà, et j'ai accepté la situation. Et voilà, et on se respecte sa vie, il respecte la mienne. Moi, je ne le trompe pas et je ne suis pas prête à le tromper. Je ne suis pas prête à sauter le pas. Alors, je ne sais pas, je ne me permets pas. Je suis con peut-être, hein, mais je ne me permets pas de... Je suis une femme fidèle, je suis con, hein, mais voilà, je sais pas.
Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, Babette?
Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il a fait son choix, que c'est elle, c'est Claudie, qu'il a fait son choix, qu'ils ont déjà choisi leur père tombale, n'importe quoi. Et je lui dis, mais tu déconnes complètement, mon bon gars. T'as choisi ta père tombale avec Claudie. T'as 58 ans et tu t'as déjà choisi ta carte en main. attend l'avenir. Hein. T'es jeune, hein. 58 ans, t'es hyper jeune. Hein. T'as tout l'avenir devant toi. Hein. Non, je sais pas. Il est suivi par un psy, là-haut. Un ami à nous. C'est un couple d'amis dont l'homme est psy. Le docteur Bédos.
Non, ne donnez pas de nom, s'il vous plaît. Vous en donnez beaucoup, là, depuis tout à l'heure.
Ben, je donne le nom du docteur.
Oui, mais on n'est pas là pour ça sur la Libre Antenne, vous le savez.
Ah, excusez-moi.
On préserve l'anonymat de chacun.
D'accord, très bien, excusez-moi.
Qu'est-ce que vous espérez maintenant, à la fois de lui, alors, de votre...
Je sais pas comment me situer par rapport à Claudie, qui est bienveillante avec lui, qui l'a permis d'évoluer, qui l'a permis de s'émanciper, de vivre seule et de faire ses comptes, d'être autonome, d'être responsable, de m'ouvrir les yeux. Je sais pas...
Si vous écoutez ce qu'il y a dans le fond de votre cœur, il y a quoi? Qu'est-ce que vous entendez?
Je ne sais pas, la solitude. Et dans le fond de mon cœur, c'est que mon cœur bat toujours et je voudrais trouver une âme sœur, quelqu'un qui partage à nouveau. Il partage à nouveau des choses avec moi.
Mais plus lui, vous ne vous voyez pas vous remettre en couple avec lui?
Ah non, je ne vois pas me remettre en couple avec lui. On s'est trop déchiré, on s'est trop jeté. Non, je ne vois pas. On respecte nos distances maintenant. On respecte nos distances, on vit éloigné, on se téléphone, on fait de l'humour comme d'habitude, on déconne. Moi, j'écris toujours, je raconte nos histoires. L'histoire du temps présent, de chaque instant.
Vous écrivez comment, sur quoi?
Sur papier, avec un stylo, papier blanc.
Ah. Juste pour vous, comme ça, simplement?
Ah non, j'ai été édité déjà. Deux recueils de poésie.
C'est bien, ça,
bravo. J'ai fait quatre recueils à compte d'auteur. J'ai fait quatre petits, tout fins recueils à compte d'auteur et deux recueils à compte d'auteur éditeur.
Bon. Vous êtes pleine de ressources. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour changer les choses, pour rencontrer quelqu'un, par exemple?
Ben, je fais de la marche, je me suis remise au sport, je me suis remise à promener ma chienne, que je vais avoir au début du confinement. Je me suis remise à prendre soin de moi, je me suis remise à m'occuper de moi, à me faire belle. Je me suis remise à me regarder dans la glace, alors que je n'étais jamais regardée dans une glace. Jamais. Mm-hmm. Jamais je me regardais dans une glace. Je suis une seule nature. Mon père me disait « Nature est un beau guide ». Et moi, mon guide, c'est le spontané, la nature, les mots, comme ils viennent.
Bon, donc c'est plutôt bien, vous avez initié un mouvement déjà, quelque chose qui vous permet d'avancer.
Oui, je veux me prendre en main, avoir foi en moi, croire en moi, parce que j'ai jamais cru en moi. J'ai toujours cru que je n'existais que pour donner.
Qui vous a fait croire ça?
J'aime tellement, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire. J'ai toujours le sourire, je donne tout le temps. Mais est-ce que je m'aime assez? Est-ce qu'on le voit si je m'aime? Arrêtez, vous allez me faire pleurer.
C'est moi qui vous fais pleurer? C'est quoi cette émotion là, Babette, qui cherche à s'exprimer?
C'est 40 ans d'égarement. 40 ans de perte. J'ai jamais eu sur moi, à part quand j'étais sportive avec mon père. J'étais une championne d'athlétique.
Et pourquoi vous n'avez jamais eu cette confiance en vous, cette estime de vous?
Je sais pas. C'est Jean-François qui m'a donné l'estime de moi. Il m'a toujours encouragé à écrire. Vas-y, Babette. T'as du talent, c'est bon, écris. Et comme j'écrivais la nuit.
Bon, et ça, vous l'avez fait, vous avez été capable de le faire?
Ben oui, j'ai été capable de le faire avec
la
nuit.
Alors, oui. Donc, vous voyez que vous avez de la valeur.
Ouais, mais je ne suis pas encore vraiment à être fière de moi et à être. Je ne sais pas, je suis très humble et très.
Alors, être fier de soi n'a rien à voir avec l'humilité. On peut avoir confiance en soi, être fier de soi, avoir de l'estime pour soi et être humble, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup trop de gens qui confondent d'ailleurs la confiance avec la prétention, ce n'est pas le cas du tout.
J'avais une mésestime de moi, je me suis toujours mésestimée. Quand j'ai pris beaucoup de poids, alors ça n'a pas arrangé les choses.
C'est pour ça que je vous posais la question, on ne se mésestime pas soi-même, on apprend à se mésestimer. Donc je vous ai demandé, qui vous a appris à avoir aussi peu d'estime de vous-même?
Ben, à force des réflexions de mon père, quand il me faisait comme si je gonflais, ça voulait dire, t'as gonflé, t'es énorme, tu gonfles. Mmh. Voilà, donc oui. Ça, les petites réflexions quelquefois du père, ma mère...
Qui résonne encore dans votre tête aujourd'hui.
Oui, il aurait 99 ans le 10 octobre, il aurait eu 99 ans, je suis allée sur sa tombe et j'ai mis une bruyère mauve et blanche et ma mère à côté, ils sont là, ils sont au village, en haut, dans l'empire tombale familiale. Mais quand même, mon père, avant de mourir, il était encore fier de moi parce que c'était mon entraîneur, mon père, vous savez, Sabine. Mon père, c'était mon entraîneur athlétiste. Et c'est lui qui m'a donné toutes les bases de la marche, du jogging, du sport, la course à pied, du souffle, le matin, le soir, les compètes, le samedi, le dimanche, etc., etc.
Oui, c'est très bien ça, sur le plan physique, mais sur le plan émotionnel, qu'est-ce qu'il vous a donné, qu'est-ce qu'il vous a appris?
Ah, sur le plan émotionnel, il n'a rien appris. Il a tout barré. Il n'y avait aucune
Être un coach, c'est bien, être un papa, c'est encore plus important.
Voilà. J'avais un coach, mais j'avais pas l'affection psychologique.
Et oui.
Mais j'avais ma maman qui était douce et tendre et chaleureuse et que je t'aimais tout le temps et... J'en lassais tout le temps, je faisais tout le temps des bisous et je trouvais refuge dans les bras de ma mère.
Oui, mais pas suffisamment en tout cas pour avoir une pleine confiance en vous et en qui vous êtes.
Non. Mais, ah oui, je vous disais, mon père a dit, mais quand il a lu mon premier recueil édité aux éditions, il m'a dit... c'est toi qui as écrit ça? Je dis, oui, papa, c'est moi qui ai écrit ça. Et à chaque fois, il m'a dit.
Ah, quand même.
Ah, il a reconnu.
Non.
Ça me fait du rire. Ça se rend parce que je passe des larmes au sourire.
Et oui, nous sommes pleins d'émotions qui se s'entrechoquent à longueur de temps.
Oui. Et pour en revenir à Jean-François, donc je disais, lui, il m'a toujours soutenu. Il a toujours été là. Et mes enfants aussi. Ils sont un peu provocateurs, mes enfants.
C'est-à-dire, ils vous disent quoi?
Ben, ils me provoquent, ils me testent. Ils testent savoir, ils chronomètrent mes heures de sommeil, ils chronomètrent... Comme ici, ils avaient le droit de se permettre de fliquer leur mère.
Mais c'est ça de quoi je me mêle, hein.
Ben ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais moi je me la sers, alors ils croient qu'ils ont le pouvoir.
Non, c'est pas méchant.
Est-ce que je me mêle de leur vie, moi? Est-ce que je me mêle de leur vie?
Ah, je sais pas.
Non, je peux me mêler de leur vie.
En tout cas, prenez soin de la vôtre de vie maintenant, hein. C'est bien d'avoir déjà commencé, comme vous dites, à prendre soin de vous physiquement, à vous regarder dans le miroir, à faire attention à vous, à sortir et à avoir, dans l'idée de rencontrer quelqu'un, déjà de programmer ça dans votre esprit. Quelqu'un qui va vous faire du bien. Vous autorisez ça, hein ?
Pardon ? Vous croyez que je vais le croiser ?
Et pourquoi pas ?
Une personne. Homme ou femme, hein, peu importe. Quelqu'un qui m'écoute et qui me redonne du bien. Je ne suis pas contre le sexe.
ça serait la cerise sur le gâteau, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le plus important tout de suite.
Hein. Non, pas du tout.
Vous avez d'abord besoin qu'on vous parle d'amour avant de vous parler de sexe.
Non, j'ai des contre le sexe, homme ou femme.
Ah, vous avez deux orientations?
Ah oui, oui, il n'y a pas de souci. Je peux très bien rencontrer un homme ou une femme.
D'accord, ça double les chances alors, tant mieux.
Voilà, tout à fait.
Bon, Babette, j'ai Manuel qui attend depuis tout à l'heure et qui est très seul ce soir aussi, à qui j'aimerais faire un petit coucou. Le prendre quelques instants à l'antenne. Hein.
J'espère que l'on se reparlera dans quelques temps. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la future rencontre.
Exactement.
Merci.
Exactement.
Sabine.
Prenez
Merci.
Bien soin de vous et croyez en vous. Parce que si vous n'y croyez pas, hein, qui va y croire?
C'est vrai, ça vient. Vous avez pas oublié de me... Une petite piqûre de rappel.
Et si vous oubliez, vous savez ce qui va se passer, je vais devoir vous appeler tous les matins pour vous le rappeler. Hein. Ça va être insupportable.
Non, rien.
Je vous redonne le sourire, c'est déjà ça.
Rappelez-moi tous les matins, j'attends ça.
Ça va être compliqué. Je vous embrasse, Babette.
Au revoir, merci, je vous embrasse, Sabine. Merci.
Au revoir.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et notre émission se termine en douceur avec les Pink Floyd. Merci à tous d'avoir été là, d'un côté ou de l'autre du poste. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouverez à partir de 22h30. Le week-end prochain, je serai en congé, c'est Sana Blanger qui prendra soin de vous. Je vous retrouve donc le week-end d'après. D'ici là, prenez soin de vous et je vous quitte avec la phrase du jour. L'homme heureux est celui qui peut... apprécier le paysage alors qu'il s'est trompé de chemin. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à dans 15 jours.